présenter avant de tout de suite leur donner la parole nos trois intervenants. Je précise donc que c'est une soirée un petit peu originale dans le sens où ce sont des étudiants qui vont vous faire cette présentation. Je dois dire que j'avais pu connaître, écouter l'exposé de leurs travaux qui avait été fait donc dans le cadre du majeur d'HEC en troisième année. J'avais été très impressionné de voir la qualité de la réflexion, la qualité également matérielle de ce travail. Et donc, quand on a préparé ce programme, je m'étais dit, après tout, c'est sans doute intéressant, au-delà des experts que vous avez déjà pu écouter, d'avoir le point de vue, la parole de jeunes qui vont rentrer dans la vie active et qui, donc, on réfléchit sur ce sujet très important. Alors, Diane de Zélicourt, à 22 ans, elle est élève en dernière année d'HEC à Paris au sein de la spécialisation Alternative Management. Et elle a un intérêt particulier pour les problématiques liées à l'habitat écologique et pour les études touchant à la prospective. Nathalie Ruzé, 24 ans, est élève également donc en dernière année d'HEC à Paris au sein de la spécialisation Alternative Management. Et son intérêt particulier pour les problématiques liées à la construction écologique, à la gestion des ressources et au développement de l'économie sociale et solidaire. Enfin, Yann Devaux, 23 ans, est élève en dernière année à HEC à Paris au sein de la spécialisation Alternative Management. Ils ont travaillé collectivement avec d'autres, je crois, étudiants, mais c'est les trois qui viennent nous le présenter. Son intérêt particulier pour les problématiques liées aux énergies renouvelables et au métabolisme territorial. Enfin, je voudrais citer Bruno Raymond Damasio, qui a travaillé avec les trois étudiants pour la réalisation des films, puisque cette conférence, au-delà des exposés, aussi fera l'objet de présentations des scénarios sous forme de films. Voilà, je leur laisse la parole pour environ une heure, et puis après, nous aurons les questions et les débats que j'aurai le plaisir d'animer. Vous avez la parole.
Bonjour à tous. À notre tour de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être venus si nombreux à cette présentation. Avant de commencer, on voudrait adresser une petite pensée toute spéciale à une vieille dame qui nous a énormément inspirés pour ce travail et dont vous allez sûrement reconnaître la touche un petit peu personnelle dans les divers slides qui vont défiler sous vos yeux, d'autant plus qu'aujourd'hui nous fêtons ses 65 ans. Effectivement, nous sommes le 6 juin 2009 et le 6 juin 1944 débarquait en Europe la consommation de masse. Donc, comme vous l'aurez remarqué, notre porte d'entrée dans le thème de la croissance verte va se faire via le thème de la consommation, avec un intérêt particulier pour une de ces tendances qui est celle de la déconsommation. C'est aussi un travail que l'on va vous présenter sous l'angle de la prospective, c'est-à-dire qu'on se place d'emblée dans l'avenir et qu'on va essayer de vous présenter ce que pourraient être les différentes facettes de la consommation en France en 2050. Alors pour ce faire, notre exposé va se dérouler en trois parties de la manière suivante. On va commencer par une introduction à la pratique du scénario afin de vous familiariser un peu avec le cadre méthodologique de notre travail et surtout son utilité. Avant de vous présenter les quatre mondes que nous avons imaginés pour 2050, et chaque monde sera ici illustré par un court-métrage. Enfin, nous vous présenterons une manière concrète dont on peut utiliser ces scénarios. Alors on commence par définir exactement ce que c'est. Et la première question qu'on peut se poser, c'est celle du pourquoi. À quoi servent les scénarios? Et pour commencer à répondre, on peut parler des gens qui les utilisent. Alors les scénarios, c'est d'abord en fait un agrégat de différents outils de stratégie qui, une fois mis ensemble, permettent d'avoir une vision du monde assez vaste et assez profonde, sans exhaustivité, mais quand même de manière extrêmement précise. Et donc, les premiers qui peuvent les utiliser, on peut penser aux armées, par exemple, dans le cadre de la stratégie militaire, pour la conduite de la guerre, etc. Ça peut également être des entreprises. On peut donner l'exemple de Shell, dans le secteur pétrolier, qui fait figure d'exemple en la matière, mais également des gouvernements et des institutions. Par exemple, le gouvernement français peut légitimement se poser des questions comme à quoi ressemblera Paris en 2050, en 2080, tout comme l'Organisation mondiale de la santé peut réfléchir, par exemple, à l'avenir de l'eau dans le monde. Alors, ces scénarios servent à explorer l'avenir. Explorer l'avenir dans le sens où il faut voir venir des changements pour pouvoir mieux les anticiper et s'y préparer, voir venir des risques pour mieux les gérer, Et enfin, pouvoir envisager des réactions adéquates et se fixer une ligne de conduite selon le contexte et l'environnement. Par ailleurs, la richesse des scénarios, c'est de pouvoir imaginer différents mondes que l'on peut à la fois confronter et comparer, ce qui permet de tester ses stratégies. Ainsi, si on se met à la place d'une ville, d'une entreprise, d'une association, ce genre d'entité peut se poser des questions comme « Dans tel monde, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que j'existe encore? Est-ce que j'existe dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui a changé ?» etc. Donc, quand on envisage une décision à prendre, on a, avec une multiplicité d'avenirs possibles, une bien meilleure idée des différentes répercussions que les décisions peuvent avoir. Enfin, les scénarios sont aussi un outil de communication et d'influence. C'est-à-dire que là, par exemple, on va vous présenter différents mondes. Et quand on présente des mondes, généralement, il y en a un qui peut avoir l'air plus attrayant que les autres. On n'a pas très envie de se diriger. Et c'est donc une manière de pouvoir influencer en se disant ben, si tel monde paraît plus attrayant ou si pour telle entité, tel monde est beaucoup plus favorable, quelles actions mettre en place pour arriver vers ces mondes et comment nous-mêmes construire l'avenir et l'influencer pour le voir se dérouler. Donc, en résumé, les scénarios, il faut bien comprendre que ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que ce qu'on va vous présenter se réalise et on n'a pas pu utiliser de boule de cristal pour pouvoir donner des chiffres sur l'avenir, donner des tendances qui se réaliseront, etc. Et ce ne sont pas non plus des travaux probabilistes, dans le sens où il est impossible de dire tel monde a plus de probabilité de se réaliser qu'un autre. Mais les scénarios sont avant tout un travail, une démarche d'analyse et de recherche de prospective qui est appuyée par toute une phase de collecte et d'analyse de données extrêmement variées, à la fois dans le registre économique, technologique, social, etc. Et nous avons également rencontré pour ça différents experts qui travaillent dans des domaines très variés. On a rencontré des gens, on a rencontré des sociologues, des gens qui travaillent dans le design, dans le domaine de l'énergie. Enfin, vraiment une vision extrêmement vaste. Et enfin, c'est une démarche créative. Vous allez voir notamment des films pour illustrer les mondes. Une démarche créative qui soutient la mise en forme des scénarios pour pouvoir les communiquer et les faire passer à un public. Donc l'origine de notre réflexion porte d'abord sur ce qu'est le phénomène de la consommation. La consommation de masse est apparue à la faveur de certaines transformations qui se sont déroulées dans l'entre-deux-guerres et puis surtout après-guerre, dans ce que Jean Fourastier a pu appeler la période des Trente Glorieuses, puisque l'appareil productif s'est transformé et on a ainsi assisté à une standardisation des produits, à une production de masse et à un équipement sans précédent des ménages en biens de consommation. C'est ainsi que peu à peu, les modes de vie ont pu s'uniformiser, s'homogénéiser et prendre un modèle commun. C'est ainsi qu'on a vraiment assisté à un phénomène social, qu'on a appelé la société de consommation, et ce phénomène a pris des proportions de plus en plus importantes, à tel point qu'aujourd'hui, on parle plus de société d'hyperconsommation, de société d'abondance, de société d'accumulation, ce qui permet de légitimement remettre en cause en fait, ce niveau de consommation, avec notamment une prise de conscience au niveau des enjeux environnementaux, avec le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, mais aussi un questionnement quant à la santé de notre société, qu'est devenu le lien social, qu'est devenu la justice sociale. Et enfin, on assiste à certaines réticences par rapport à des comportements qui sont véhiculés par ce modèle, comme le gaspillage ou encore certaines valeurs, les valeurs d'individualisme ou de consumérisme. Quel est donc l'avenir de la consommation en France et est-ce que la déconsommation ne fait pas partie de cet avenir? Alors, qu'est-ce que c'est que la déconsommation? C'est, comme vous aurez pu le remarquer, un néologisme qui n'a pas encore de définition très fixe et qui est apparu parallèlement au développement de nouvelles manières de consommer qui se veulent engagées et militantes. Alors, il faut être assez clair sur le fait que la déconsommation ne signifie en aucun cas qu'il faut arrêter de consommer. C'est en fait plus une invitation à changer de mentalité par rapport à la consommation, c'est-à-dire de ne plus faire de la consommation le centre des valeurs sociales et le centre des activités humaines. Donc pour cela, la déconsommation passe par un autre mode de consommation. Ça peut être, par exemple, une diminution en volume de la consommation. Je vais consommer moins de carburant. Ça peut être aussi une diminution en valeur. Je vais aller faire mes courses dans un supermarché discount. Et ça peut être aussi un transfert entre les postes de consommation. Si je consomme moins de carburant, ça peut augmenter la part du budget que je vais consacrer ensuite à mes loisirs. En plus de cela, on peut remarquer que les causes de la déconsommation peuvent être diverses. On distingue la déconsommation subie d'une déconsommation volontaire. La déconsommation subie peut s'expliquer par des facteurs comme le pouvoir d'achat réduit, par des normes réglementaires qui vont instaurer certains quotas sur la consommation des produits, mais elle peut également être voulue et résulter d'une démarche volontaire de la part des individus. Dans ce cas-là, ça peut être soit parce qu'ils soutiennent certaines valeurs, notamment par rapport à l'environnement, des valeurs spirituelles, des valeurs d'hygiène de vie, etc. Donc vraiment, beaucoup de portes d'entrée pour aller dans cette déconsommation. Et elle peut être également consciente ou inconsciente. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir accès à des formes de déconsommation, mais sans s'en rendre compte. Notamment, le Parisien qui va rentrer chez lui après la conférence en utilisant un Vélib participe à un phénomène de déconsommation puisqu'il participe à un mouvement de réduction du nombre de vélos dans Paris. C'est donc une manière nouvelle de consommer, mais il n'a pas forcément conscience en le prenant que ça va marcher. Donc, la question à l'heure actuelle, c'est surtout de savoir si la déconsommation n'est pas une question de temps, puisqu'aujourd'hui, on a le choix de savoir si on veut déconsommer ou pas, et ce choix est sûrement à considérer comme un luxe. Mais est-ce que ça sera toujours le cas dans un contexte d'épuisement des ressources, etc. On n'en est pas vraiment certain.
Donc, maintenant que vous savez ce que nous entendons par déconsommation, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi cette échéance. Pourquoi 2050 ? 2050, tout d'abord, ça laisse un certain laps de temps. Ce sera la génération de nos enfants, de vos enfants ou vos petits-enfants qui organisera la société. Donc ça laisse le temps à de nouvelles valeurs, à de nouveaux comportements de se diffuser et véritablement aux mentalités de changer. C'est aussi, vous le savez, il existe un calendrier institutionnel avec un certain nombre d'échéances et 2050 est l'une d'entre elles. On peut citer un exemple, le facteur 4. D'ici 2050, nous devons réduire, diviser par 4, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que ça se justifie. Au cours de notre recherche, vous l'avez compris, nous avons rencontré un certain nombre d'experts, nous sommes documentés et nous sommes rendus compte que de nouvelles innovations allaient voir le jour dans les prochaines années. On parle par exemple de propulsion à hydrogène, d'agrocarburants de troisième génération qui vont voir le jour et se développer dans les années 1925-1930. Et ces innovations demandent du temps pour se développer. Si vous prenez l'automobile par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut 30 ans, au moins 30 ans, pour que le parc automobile se renouvelle entièrement. Donc cela justifie notre échéance. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup des écoquartiers qui apparaissent aujourd'hui en France. Rénover l'habitat, l'urbanisme, ça demande du temps. Et 2050 se justifie donc, puisqu'on peut estimer qu'en 2050, les écoquartiers ne seront plus quelques exceptions parsemées par-ci, par-là, sur le territoire français. Mais 2050, c'est aussi une date, une échéance qui nous confronte à des problèmes de pénurie de ressources nettement plus dramatiques. On sait, par exemple, qu'en 2050... nous aurons passé un certain nombre de pics de production. On peut penser au gaz, on peut penser aux hydrocarbures. Nous serons confrontés à de réelles pénuries. Si on prend l'exemple de l'eau, c'est encore plus dramatique, puisqu'on sait aujourd'hui, selon l'organisme de météorologie mondiale, que dès 2025, la quantité d'eau par personne sera divisée par 2. Ce qui laisse présager pour 2050 entre 2 et 7 millions de personnes confrontées à des graves problèmes de pénurie d'eau. Vous le voyez tout de suite, 2050, des pénuries d'eau, des pénuries de matières premières, des nouvelles innovations, la société aura nécessairement changé. Et donc, c'est ce qui justifie notre échéance. On va vous présenter rapidement notre méthodologie pour vous montrer comment on est arrivé à aboutir, à imaginer en fait quatre mondes pour 2050. Donc, tout d'abord, imaginer le futur, ça nécessite de bien comprendre le présent et de bien comprendre le passé. Quelles ruptures sont intervenues et ont été essentielles pour modifier notre société ? On va vous en prendre deux rapidement. Par exemple, pendant les Trente Glorieuses, l'avènement d'un système productiviste qui a introduit la consommation de masse et donc modifié nos comportements de vie, nos valeurs et tout notre quotidien. La mondialisation aussi a eu un rôle extrêmement important puisque avec la libéralisation des flux de marchandises, de capitaux, notre société s'en est trouvée modifiée avec une uniformisation culturelle, de nouveaux modes de comportement et une réduction des notions de temps et de distance. Une fois qu'on a bien compris, bien analysé notre société, le passé et comment nous en étions arrivés là, nous sommes posés deux questions. Qu'est-ce qui est certain pour 2050 et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Au niveau des certitudes, elles sont, vous pouvez l'imaginer, relativement réduites. On sait que l'homme aura toujours des besoins primaires. Boire, dormir, manger, ça c'est sûr. La pénurie de ressources va s'accentuer. Et les catastrophes naturelles risquent aussi fortement de s'augmenter. Statistiquement, c'est montré. Au niveau des incertitudes, elles sont multiples. Alors, on ne va pas toutes les lister parce que cela prendrait beaucoup trop de temps, mais on ne sait pas ce qu'il en sera du lien social, par exemple. Y aura-t-il plus de conflits entre générations, plus de solidarité, plus de dialogue? Parlera-t-on d'un Chinese way of life? On n'en sait rien. Enfin, le krach écologique aura-t-il lieu? Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles on n'a aucune certitude. Donc, une fois qu'on a eu listé toutes ces incertitudes, nous avons essayé d'imaginer 4 mondes, en fait, que nous allons vous présenter au cours de cette conférence. Et pour en vérifier la cohérence et vérifier nous assurer que ce ne sont pas n'importe quoi, nous avons testé ces mondes en effectuant des chemins logiques entre le présent, aujourd'hui, et ces 4 mondes que nous imaginons en 2050. Donc, rapidement, vous voyez que nous avons analysé, nous sommes partis de 1900, puisque nous nous projetons en 2050, c'était nécessaire de prendre du recul par rapport à aujourd'hui. De 1900, nous avons analysé la société et le monde du point de vue donc, social, politique, économique, technique, législatif, pour aboutir au présent. Et à partir de nos incertitudes pour l'avenir, nous avons établi 4 futurs dont nous avons testé la cohérence. Donc, nous allons vous présenter les 4 mondes.
Donc voilà, on va vous présenter les 4 mondes. Chaque monde est un scénario. Chaque monde est bien caractérisé, et pour les caractériser davantage, on a essayé de synthétiser toutes ces caractéristiques à travers un titre. Donc nos 4 mondes sont sous perfusion, au pied des murs, la belle vie et le goulag vert. On commence tout de suite avec le premier monde qui est sous perfusion. On va vous les présenter à travers un court-métrage et puis on reviendra sur les caractéristiques principales. Alors, sous perfusion, c'est un monde où les énergies non renouvelables jouent un rôle primordial. Énergies non renouvelables, je pense notamment au charbon, qui, par liquéfaction, est utilisé comme carburant, mais également est utilisé dans les centrales thermiques pour produire de l'électricité via une technologie du charbon propre, c'est-à-dire qu'on capte et on stocke le CO2 émis en sous-sol, ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement. La deuxième source d'énergie qui est utilisée dans ce monde, c'est évidemment le nucléaire, qui, en produisant de l'électricité, permet l'électrolyse de l'eau, qui va produire, en fin de compte, de l'hydrogène, qui est un vecteur d'énergie pour les transports. On voit ici que dans ce monde, il y a une vraie foi en la technologie, que la technologie est tout à fait importante, mais au sens large, c'est une foi en la technique plus généralement qui opère. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple optimisation de l'éco-conception et de l'éco-efficacité des produits et des procédés techniques, il y a une vraie foi en la technique commerciale et économique. On peut penser par exemple au neuromarketing qui essaye d'analyser tous les comportements psychologiques et psychiques du consommateur. Et également, d'un point de vue juridique, on assiste à une vraie prolifération juridique où le droit est une méthode de gestion des relations humaines. Donc on va regarder tout de suite ce à quoi correspond ce monde sous la forme d'un court-métrage.
C'était unique, exceptionnel, un week-end de rêve. Il était quoi? 3000, à peine. Attention, c'est top secret, ultra confidentiel. Mmh. Ils ont reconstruit l'Atlantide. Tu sais la ville là, sous l'eau? Elle ouvre dans 6 mois à peine. C'est pas un truc de dingue ça? Tiens, regarde. J'ai gardé le pas sur la main là. Évidemment, j'ai gagné des petites choses. Et comme je t'aime et que je pense à toi...
On commande?
Tu prends quoi?
Du Bordeaux.
Du vin bio? Ah, mais je croyais que t'avais arrêté avec ça. Écoute, tu fais ce que tu veux. Mais si j'étais toi, vu ta mine, je prendrais un Doliprane fraise.
Tu crois?
Belle idée. Moi, je prends un hamburger à la truffe avec une coupe de champagne bleu. Oui, je sais que c'est un peu hors de prix, mais j'ai un code promo pour ça. T'en veux un?
Non.
Attends, ça va, j'insiste pas. Attends. Hola. Et hombre. Oui, c'est moi. Aujourd'hui? À quelle heure? Excellent! Un instant, s'il vous plaît. Ça te dirait de partir en Asie? Oui, non?
Mais je sais pas.
Attends, je viens de le gagner à l'instant, là. C'est gratuit, là. On peut pas partir demain? Non! Ah! C'est un jeu à gain instantané. On part dans 1 heure.
Non,
T'es sûre?
Mais oui.
Mais je sais pas, moi, on pourrait...
Tu le fais exprès.
Oui, je suis désolé, on part déjà demain.
Voilà.
Mais comment vous savez? Sur mon profil? Oui, bien sûr, c'est le X17B16. Voilà. À bientôt, j'espère. Au revoir. Vas-y. Mmh. Mmh. Oh là là. Regarde. 6 hypermarchés Walclair ont été attaqués simultanément dans le sud de la France.
Ah, oh, c'est pas vrai.
Le groupe terroriste, les objecteurs de conso, auraient revendiqué cet attentat. Ils protestent contre les inégalités sociales et ce qu'ils appellent la surconsommation. Attends, mais moi, ça me sidère que des groupes comme ça existent encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste la révolution? Oui, oui, je sais, il y a toujours eu des extrémistes. Je te disais, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce oui. que c'est? C'est un stylo pinceau. C'est super vintage. Je vais t'expliquer. Je suis sur un gros coup, là.
Uh-huh.
Et j'ai pensé à toi.
C'est...
Non, non, non. J'ai été approché pour un concours. Et ça se joue à plusieurs. Et ils disent qu'on a plus de chances de gagner si on le fait entre amis.
Uh-huh.
Et j'ai pensé à un truc de dingue. On se fait tatouer sur le corps le slogan de la campagne. Il me faut 6 corps pour ça. J'en ai déjà 5. Il ne manque plus que le tien. Je suis sûr que tu serais parfaite pour ça.
Bah, je sais.
On prend une photo et voilà. Alors?
Ça abîme la peau, les tatouages.
Oui. Non, mais attends. Ça part après. J'ai gagné une chirurgie esthétique, j'ai prévu le truc.
Oui, mais quand même, c'est...
Oh, ça t'embête de te montrer nul. Mais arrête, tu me fais rire, là. Attention, c'est une campagne mondiale flash. Ça dure une semaine seulement.
Et justement.
Mais non, mais non. Et je t'ai pas encore dit ce qu'on allait gagner.
Qu'est-ce qu'il y a à gagner?
Alors, tu sais que c'est super important pour moi, là. Je t'envoie les infos sur ton profil pour le concours. Voilà. Tiens, prends ça. Oui, parce que t'as l'air super fatigué, là.
C'est mieux. Donc voilà, dans ce monde où les énergies non renouvelables sont importantes et on assiste à une vraie foi en la technologie et en plus largement en la technique, on peut se demander quelles sont les conséquences sur la gestion de l'environnement et le tissu social. Alors d'un point de vue de l'environnement, on est toujours dans un gaspillage et une dégradation de l'environnement, puisqu'on sait aujourd'hui que le déterminant principal de la consommation globale, ce n'est pas l'efficacité, l'éco-efficacité et l'efficacité énergétique, mais c'est bien le prix de cette consommation rapporté au pouvoir d'achat. Autrement dit, c'est l'effet rebond qui joue à plein. Ce n'est pas parce que toutes les voitures sont davantage efficaces qu'on va consommer moins, puisque si l'on consomme davantage de voitures, on consommera davantage de carburant pour faire avancer ces voitures et davantage de matière pour construire ces voitures. Donc on est vraiment dans un effet rebond qui joue à plein. D'un point de vue du tissu social, on assiste à un individualisme qui touche à son paroxysme dans la mesure où la technique au sens large a permis à l'homme de se libérer des contraintes qui faisaient dans le passé, il était poussé à aller vers autrui et à se constituer en tissu social. Donc la technique au sens large a libéré l'individu et l'a rendu davantage individualiste. On le voit bien dans le film, on est vraiment dans le moi-je, l'expression du moi et de la personnalité de la personne elle-même. Également, le corollaire de cette foi en la technique, c'est l'importance du rêve dans cette société. On a vu le week-end de rêve dans Atlantic City. On est vraiment dans la sensation, dans une société du spectacle, au sens où le spectacle, c'est à la fois la propagande qui sert l'élargissement infini de la sphère commerciale sur l'intégralité des activités humaines, mais également où le spectacle, c'est le mode de rapports sociaux entre les individus via les médias, via le show. Donc la vie est un show permanent, la vie est un jeu. Également, c'est un monde de la sensation où la sensation donc est première. On peut penser par exemple au marketing expérientiel. On voit là dans le film un voyage flash à l'autre bout du monde en instantané. On est vraiment dans la sensation, dans le ressenti éphémère et immédiat. Le corollaire de tout ça, encore une fois, c'est que la technique entretient les individus dans une société de l'insouciance et du déni de réalité. On est dans une société où on pense que la technique va pouvoir desserrer les étaux écologiques, énergétiques, démographiques, sociaux et économiques, sans qu'on ait besoin de procéder à une révision de nos mentalités et à une réorganisation de la société. Donc ce déni de réalité, il est flagrant, et également il y a un déni de réalité et une insouciance de la mesure où l'individu ne peut pas intervenir directement dans la société, puisque tout est géré de manière technique. C'est-à-dire de la même manière que vous ne pouvez plus aujourd'hui bricoler le moteur de votre voiture parce qu'il y a beaucoup d'électronique dedans, dans cette société, l'individu a du mal à voir, s'il n'est pas technicien et s'il n'est pas spécialiste, à voir le bout de son action dans la mesure où tout est géré techniquement. Alors qu'est-ce que ça donne au final en termes de consommation ? Ça donne une consommation qui, même si on a vu qu'il y avait les fameux objecteurs de conso qui sont obligés de s'extrémiser, de devenir terroristes pour se faire entendre, on est dans une consommation à outrance, puisque la consommation reste le principal déterminant de la croissance économique et est un synonyme de bien-être dans la société. C'est une consommation également qui est à tous les coins de rue. Tout est marchandise, on le voit dans le film, le personnage principal veut se faire tatouer le slogan de la marque pour devenir lui-même une marchandise. C'est une consommation donc tout à fait ostentatoire. Il arbore fièrement son pass d'Atlantic City. Et vraiment, c'est une société de consommation qui est une société de consolation où on utilise des drogues pour gérer cette dimension psychologique du quotidien. Donc voilà le monde sous perfusion. En fin de compte, c'est un monde comme on le connaît aujourd'hui, mais qui est extrapolé. On est reparti pour un tour, mais pour combien de temps ? C'est là la question.
Alors le monde suivant qu'on va vous présenter s'appelle « Au pied des murs ». Et c'est un monde dans lequel l'humanité a dépassé certains seuils qui sont irréversibles. Elle ne peut plus faire marche arrière. Et elle est vraiment victime de son attitude de démesure, de son hubris. Et on se demande si on peut encore parler de consommation. Dans ce monde-là, la société et le monde réagissent en fonction des menaces quotidiennes pour la survie et la sécurité. Et la société est divisée en deux catégories de gens. Et le critère de distinction, c'est l'accès aux ressources. Donc on va vous projeter le film.
Nous sommes le 10 juillet 2050. Hier, j'ai eu 45 ans.
Nous sommes le 10 juillet 2050. Hier, j'ai fêté mes 45 ans.
Tu me demandes comment il est possible que je sois parvenu à cet âge, même. Même si je sais bien que j'en ai plus pour très longtemps.
Je mourrai sûrement plus jeune que mon père.
Avant, il ne connaissait pas le manque d'eau, de nourriture, toutes ces maladies, la lutte quotidienne pour la survie.
Il faut dire que la vie a pris une tournure cruelle pour tout le monde.
Je vis derrière des murs.
Je vis derrière des murs.
Je vis dans un bidonville. Dans ce qu'on appelait avant la grande couronne parisienne. Avec vue sur Belleville 4, un de ces quartiers de riches.
Je vis dans un quartier résidentiel sécurisé, Belleville 4. Je n'ai pas vraiment besoin d'en sortir, tout. Tout ce dont on a besoin nous est livré à domicile.
On les voit passer, les convois sécurisés qui les approvisionnent tous les jours. On les voit aussi, les feux d'artifice le soir. Ils doivent faire la fête. Tant qu'il est encore temps, comme ils disent. Pour en profiter jusqu'au bout. Tandis que nous, pour nous nourrir, c'est le marché noir.
Ah ça, je mange à ma faim. Même plus. Mais faut voir ce que je mange. Ce que je bois. Et ce que je prends.
Il y a des jours avec nourriture. d'autres sang.
C'est l'enfer pour rentrer chez moi.
De jour comme de nuit, c'est l'enfer pour rentrer chez moi. La violence est partout.
2 postes de garde, 3 barrières, 4 codes. On a l'impression d'être dans un camp. D'ailleurs, mes enfants ne sont jamais sortis de notre quartier.
Pour nous, il n'y a plus de police, plus de justice, plus d'État. C'est le chaos, quoi.
Ça serait mieux si c'était différent.
Ce serait mieux si c'était différent.
Et le pire dans tout ça, c'est que je fais partie des responsables.
Le pire dans tout ça, c'est qu'on est tous un peu responsables.
C'est ce que me disent les yeux de mes enfants quand je leur parle du passé. Le krach écologique, l'épuisement des ressources, c'était pas des surprises. Nos experts nous avaient suffisamment prévenus.
J'ai vu 5 catastrophes naturelles. J'ai vu des milliers de réfugiés climatiques.
Et notre espérance de vie a baissé de près de 10 ans. On voit des milliers de réfugiés climatiques. Ils s'entassent, là, derrière nos murs, ça. Ça doit être terrible.
Il est peut-être trop tard.
Il est peut-être trop tard.
J'aimerais tant revenir en arrière.
J'aimerais tant revenir en arrière.
Ça doit être possible de vivre autrement.
Ça doit être possible de vivre autrement.
Alors, quelques clés de lecture pour mettre en relation le monde qu'on a imaginé et le film. Donc, vous avez pu voir que le film est fondé sur une sorte de jeu de miroir avec 2 personnages qui se répondent. Il y a une grande partie du discours qui est en commun chez les 2 personnages, mais simplement, ça renvoie à des réalités totalement différentes. Donc, dans les points communs, on peut déjà trouver le fait que les 2 font référence à un monde complètement dévasté. Et ça, en fait, on a vu dans ce monde-là, on a imaginé que ce qui existe à l'heure actuelle dans certains points isolés de la planète s'est généralisé dans le monde et a gagné encore en intensité. Donc, c'est notamment au niveau écologique. Aujourd'hui, on a déjà pas mal de signes avertisseurs, entre guillemets, quand on voit par exemple le progrès du désert de Gobi, quand on voit certaines terres qui sont menacées par la montée des eaux, comme les îles Tuvalu, ou quand on voit que certains milieux sont devenus complètement impropres à la vie de tout organisme vivant. En plus du problème écologique et un problème démographique, on peut faire référence aux réfugiés climatiques qui sont mentionnés dans le film, mais aussi à l'accroissement de la population, ce qui entraîne une augmentation de la densité sur les terres qui sont encore viables. Et enfin, une véritable pénurie de ressources. Et c'est cette pénurie de ressources qui est à l'origine de toute l'organisation de la société. Et la société est donc divisée en 2. Les gens qui ont accès aux ressources se sont regroupés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les gated communities, comme il en existe en Amérique latine, qui sont des quartiers ultra protégés, sécurisés, fermés, mais qui côtoient des zones de précarité extrême. Et dans ce monde-là, l'ordre a disparu. On a des sociétés de sécurité privées qui s'occupent de l'ordre et de la sécurité dans les quartiers favorisés. Et de l'autre, on a des milices. L'État, par ailleurs, est complètement incapable d'assurer ses fonctions régaliennes normales, que sont l'ordre, le droit, la justice, la sécurité, et se concentre uniquement à pouvoir sécuriser les lieux de production et sécuriser les ressources. Mais si ces mondes sont complètement séparés, pour autant, on a pu voir qu'il y avait un certain fond commun dans les 2 personnages qui, par leurs émotions, leurs sentiments, manifestent une certaine résignation, une culpabilité par rapport aux erreurs du passé, et quand même une certaine lueur d'espoir, un instinct de survie qui est visible chez eux et qui est à relier avec des liens de solidarité qu'ils peuvent entretenir avec les gens qui leur sont les plus proches. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de consommation? La consommation en fait va ici refléter l'organisation de la société, c'est-à-dire qu'on a une consommation qui est vraiment bipolaire. D'un côté, la consommation ostentatoire, avec tout ce qu'elle peut avoir d'ultra-technologique, de consommation de l'instant, de jouissance de l'instant, avec l'idée qu'il faut consommer tout ce qui passe tant qu'il est encore temps. Mais d'un autre côté, vraiment une consommation qui est axée uniquement sur les produits de nécessité, à très bas coût. Et ça fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui le marché « bottom of the pyramid », le marché des pauvres. Donc vraiment, on a une société qui est coupée en deux. Et en plus de cela, on remarque que les lieux de consommation eux-mêmes ont disparu, puisque dans les gated communities, les gens sont approvisionnés sur place, ils n'ont plus à sortir. Et de l'autre, ce qui se passe, c'est vraiment c'est le marché noir, les échanges. Et en parlant d'échanges, on voit aussi que dans ce monde-là, l'échange marchand a été un peu oublié et qu'il y a beaucoup plus de troc, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de pillages, de piraterie. Et c'est vraiment un monde où la violence est omniprésente.
Donc on va maintenant vous présenter notre troisième monde, donc la belle vie. C'est un monde où l'homme a pris conscience des catastrophes sociales et environnementales auxquelles il allait être confronté s'il ne réagissait pas et s'il ne changeait pas son comportement. Donc un monde où l'homme est devenu beaucoup plus responsable. Il consomme moins, plus question de gaspiller, et se comporte de manière différente, avec un retour vers l'autre, une société d'échange, de partage, pour faire progresser la société, la connaissance, et rétablir plus de liens sociaux. Donc nous avons choisi de vous présenter ce film en faisant un parallèle entre la société que vous connaissez tous, la société de 2009 dans laquelle on est, et la société que nous avons imaginée pour 2050. Donc 2009, vous allez voir un court-métrage qui vous présente un jeune père de famille à sa sortie de supermarché. C'est une enquête comme vous connaissez tous. Et 2050, c'est Clémentine, donc une jeune Française, qui se met elle-même en scène avec les moyens techniques de l'époque pour faire la promotion de sa vie, de son quartier, et de ce qu'elle juge bon et pour améliorer le progrès dans la société.
Non, j'ai pas le temps, désolé. Je viens de quoi ? Bon, d'accord, mais on fait ça rapidement, hein.
Ah bah ce que j'ai acheté, bah c'est les courses pour la semaine, des pizzas surgelées, des pâtes, du coca, des petits plats cuisinés. Et puis ça c'est, ah ouais, le DVD de Future War 4. Et puis ça c'est un jeu pour la gamine. C'est un bon jeu je crois. Hein ? Ah ! Ah et ça, ah bah ça. Ça c'est une télé LCD 17 pouces ultra plate HD, toute option. Pas mal, hein? Bon, ok, il y avait une promo. Mais je l'ai eu encore moins cher. Ah non, non, je peux pas vous dire. Ah, j'ai une petite combine. Avec en prime, ce petit ordinateur portable gratuit que j'ai eu grâce à mes points fidélité. Bah, comme ça, Valentine, elle peut en avoir un dans sa chambre. Vous voyez, je pense que il faut rester vigilant pour faire de bonnes affaires. La vie, elle est tellement chère. Mais moi, je suis un commercial. On me la fait pas. Allô ? Bah non, bah ouais, non, je peux pas, là. Attends, t'as dit quel prix ? Fonce ! Ouais, je te rejoins tout à l'heure. À toutes. Bah, vous voyez, là ? Il faut flairer les promos. Bon, en ce moment, c'est pas facile. Hein. C'est clair, les gens, ils y arrivent plus. Il y en a qui crèvent la gueule ouverte sur le trottoir. On est des vaches à lait. On nous ponctionne comme c'est pas permis quand on va en vacances, quand on achète à manger, quand on va au ciné. Donc, et c'est pas la politique hein, qui va changer quelque chose. Moi, je vous le dis. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a des gens, je sais pas comment ils font, mais quand on voit dans quoi ils roulent, on se demande. Hein. C'est pas la crise pour tout le monde. Mais bon, et comme je dis souvent, en même temps, on n'a rien sans rien. Hein. Moi, je travaille dur pour faire vivre ma famille. Oh, merde ! Ah ouais, non, d'accord. Hey. Vous savez qu'ils commencent à nous bassiner, là, avec leur réchauffement climatique et la fin du pétrole. C'est bien beau, ça, mais hey, s'il n'y a plus de bagnole, comment on vit, là ? Et puis de toute façon, moi je comprends rien avec leur grenelle de je sais pas quoi là. Venez, on va se marrer un coup, deux secondes. Bonjour.
Bonjour.
C'est contre le réchauffement climatique, il y a un grand rassemblement tout à l'heure.
Mais vous voyez pas, vous commencez à nous gonfler là avec votre acte à la con. En ce moment, c'est la crise. Hein ? Le réchauffement climatique, il attendra peut-être encore un peu. T'as peut-être eu trop chaud, toi, cet hiver.
Pauvre con.
Bah, c'est ça, allez, casse-toi, connasse, va. Bon, c'est bon, vous avez tout ? Bon, on fait comment, là, pour le petit cadeau ? Hein ?
Bonjour, c'est Clémentine. Je reviens de chez le primeur du quartier. J'ai fait des commandes groupées pour les voisins. Parce qu'ici, on mutualise au maximum. On s'entraide. Venez. En fait, on met en commun la plus grande partie de nos biens. Le petit outillage, l'électroménager, les transports. On n'achète presque plus rien. Sauf pour se nourrir, évidemment. Et tout le reste, on le loue. Par exemple... Je viens d'actualiser mon contrat Locabi. C'est pas mal, non ? Moi, j'adore. Du coup, bah, les producteurs ont fait des efforts permanents pour faire des produits durables, résistants, personnalisables, pour que chacun s'y retrouve. Et au final, bah, c'est sûr qu'on consomme moins qu'avant. Hein. On fait du troc, des dons. On est dans l'échange non marchand. Par ici. Oui, notre société est plus solidaire. Les gens coproduisent, ils partagent de la connaissance. Bonjour. Chacun est jugé selon ses compétences, mais aussi selon les services rendus à la collectivité. Moi, je dirais que l'important, c'est tisser du lien social. C'est l'échange. Le local, c'est fondamental. La démocratie participative, la relocalisation de l'économie. Ça a changé notre vie. Maintenant, on produit sur place la plus grosse partie de ce qu'on consomme. D'ailleurs, chez nous, bah, y a du travail pour tout le monde. La nature, c'est primordial. On a appris à vivre avec la nature et pas contre elle. D'ailleurs, notre cité est à énergie positive. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. La technologie a joué un grand rôle, c'est sûr. Mais moi, je pense vraiment dans le fond que c'est plutôt les mentalités qui ont changé. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Hein. Tiens, bah, regardez ce pauvre type là-bas. Là. Avec ses bras chargés plein de cartons. C'est passé. Bonjour.
Ouais, bonjour.
Ça va ? Attendez, ouais, je vais vous aider.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est une personne attachée à la société de consommation, mais comme on l'a connu il y a 40 ans. Et du coup, il est hors du lien social. C'est lui le plus malheureux, en fait. Bon, on n'est pas bien là ? Voilà. Bah, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, venez échanger avec nous.
Vous l'avez compris, la belle vie est un monde qui est complètement différent du nôtre, où consommer a vraiment changé. On ne consomme vraiment plus que ce qui nous est nécessaire, plus de gaspillage, plus de superflu. C'est aussi un monde où l'individu s'engage, il essaye de faire progresser la connaissance, progresser le savoir. Vous l'avez vu, Clémentine se filme dans un but de mettre sa vidéo après en ligne et de faire partager ses informations avec d'autres. Elle s'implique aussi dans la vie de son quartier. Vous avez vu, elle va faire les courses pour les voisins. Ils mutualisent les besoins. Donc le lien social est beaucoup plus fort. L'individu s'implique et essaye d'aider l'autre, de mutualiser et de participer à la vie de sa cité. Il s'implique dans la vie municipale, dans la gestion des transports, dans toutes les activités sur lesquelles il peut avoir une influence qui le concerne directement. C'est véritablement l'avènement de ce que l'on peut appeler une démocratie participative. On voit dans ce monde que les associations augmentent, se multiplient pour animer la vie de quartier, mais aussi pour résoudre d'éventuels problèmes. C'est une société aussi qui échange réellement, société de la connaissance, on l'a dit, et donc pour faire partager aux autres sa connaissance, c'est une société qui est organisée en réseau. Clémentine poste sa vidéo, on voit que les innovations, les chercheurs se partagent leurs informations, et c'est une société aussi qui, où le principe de réputation est extrêmement fort, puisque tout se sait. Vous avez vu que Clémentine critique ce qu'il reste de la société de consommation et va le poster. Ça veut dire que tout le monde, tous ceux qui auront eu accès à la vidéo de Clémentine, auront aussi accès à son regard et à sa critique de l'individu qui continue de consommer. Donc c'est une société qui est à double tranchant, et ce principe de réputation qui est extrêmement fort, qui pousse les individus à bien agir, à se conformer aux valeurs de cette société, à être responsable, est aussi une société qui critique. C'est aussi, enfin, on peut considérer que c'est quelque part le garant de la bonne tenue et du progrès de cette société. Outre, donc vous avez vu que cette société a beaucoup évolué, et cette volonté de moins gaspiller, moins consommer, a complètement changé l'organisation du territoire, l'organisation de la production et l'organisation de l'économie. Vous avez vu qu'elle parle de mutualisation, elle parle de retour au local. Pour moins gaspiller, c'est un monde où les industriels se sont reconcentrés en ce qu'on appelle des boucles locales, selon les principes de l'écologie industrielle. Donc il s'agit de regrouper des industries complémentaires dans des clusters pour favoriser les synergies et réduire le gaspillage. Donc les industriels pensent en permanence, dans cette société qui est relativement technique, à des moyens pour améliorer la qualité des produits, mettre au point des produits intelligents, plus durables, et ce qui a des conséquences directes sur la consommation des citoyens, puisqu'ils vont consommer des produits plus durables. On ne va plus acheter des services, vous le voyez d'ailleurs. Elle ne suit pas la mode, elle n'achète pas des vêtements tous les mois. Non, non, elle a un contrat Lockaby, elle loue ses vêtements. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. À un autre moment dans le film, elle parle de mutualisation. Donc on va acheter, certes, une machine à laver par exemple, mais on ne va pas la garder pour soi, plus question que toutes les familles aient une machine à laver. Non, on va mutualiser ce bien, ce qui, de fait, réduit la consommation de matière et participe à cet effort de protection de l'environnement et des ressources. C'est aussi une société où le bâti, l'organisation du territoire, s'est complètement modifiée. Vous voyez qu'elle se filme dans une ancienne zone aménagée, enfin, qui a été revitalisée. Donc c'est un lieu où les gens ont une volonté de vivre localement, puisqu'on ne va plus faire des kilomètres, prendre sa voiture, faire des kilomètres pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour revenir. Non, non, on concentre zone de production, zone de loisirs, zone de travail, au même endroit. Et ce qui fait qu'on connaît beaucoup plus les personnes et que le lien social s'en trouve renforcé. Donc c'est une société où justement les liens entre les individus sont beaucoup plus forts, les préoccupations environnementales et sociales sont aussi très élevées, et la consommation est complètement modifiée, puisqu'on consomme du durable, de l'immatériel, du qualitatif, et tout en renforçant toujours plus le lien entre les individus et le lien social, donc ce qui nous oriente vers ce que l'on pourrait appeler une convivialité sobre et heureuse.
Alors on va vous présenter maintenant le dernier des scénarios qui porte le nom du Goulag vert. C'est un monde un peu particulier dans lequel, face aux multiples dérives et catastrophes sanitaires, écologiques, on a vu en Europe s'installer progressivement une dictature, sinon un État autoritaire. C'est un monde dans lequel la règle, la loi, les règlements sont quotidiens et contraignent très fortement la vie des citoyens. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Par la force de l'image, le pouvoir des médias qui, via la retransmission de catastrophes sanitaires, écologiques, ont entretenu les citoyens dans un climat de terreur et de culpabilisation permanente, si bien que les citoyens ont voté pour un dictateur, soit pour un parti, soit pour une personne, qui s'est imposé en Europe comme le salut de l'espèce humaine. Donc on va avoir tout de suite le film.
All right. Nous payons, jour après jour, les erreurs des régimes précédents. Ils ont pollué, ils ont consommé, ils ont détruit. Et cela nous a menés aux pires catastrophes. Mais la tentation consumériste est encore partout. À l'extérieur de nos frontières, dans nos villes, dans nos foyers. N'oubliez jamais ce qui nous unit, car le combat n'est pas terminé. Certains s'opposent encore au destin que nous nous sommes choisis. Au moment où je vous parle, des groupuscules se réunissent et organisent de sombres orgies consuméristes. Ils nous provoquent, ils nous insultent. Il est de votre devoir de participer à l'effort commun de dénonciation écologiste et d'épuration idéologique. L'hyperconsommation doit cesser à jamais. Notre combat est juste. La fermeture de nos frontières nous protège de la folie humaine et des crises qui secouent sans répit les pays voisins. Nos experts œuvrent en permanence à la mise au point des technologies nouvelles, indispensables à la pérennité de l'espèce humaine. Nous le savons, le chemin est long, les sacrifices sont nombreux. Mais le jour viendra où nous montrerons au monde la voie de la sagesse. Et ce jour-là, vos efforts, nos efforts seront récompensés. Et le modèle européen triomphera. N'oubliez jamais ce qui nous unit. Vous le savez, une nouvelle carte verte vous sera distribuée cette année. Créditée chaque mois de votre salaire, elle vous servira de moyen de paiement et de pièce d'identité. Grâce à elle, nous pourrons contrôler au mieux vos achats et vos déplacements, mais aussi récompenser les efforts des plus méritants. Un homme nouveau est né en Europe. Un homme ascète, un homme de raison, un homme qui réprime ses passions. État fort, déconsommation, collectivisme et démographie maîtrisée. Le petit livre vert est notre Bible, la synthèse de notre rationalité commune. Le chemin parcouru est déjà grand. Je suis consciente de vos efforts et des sacrifices que je vous demande. Mais l'Europe qui naîtra de ses peines comblera vos vœux les plus chers. Alors n'oubliez jamais ce qui nous unit.
Donc vous avez pu voir dans ce monde où une dictature écologique à l'échelle de l'Europe est à l'œuvre et dans lequel on pourrait parler d'une prise de conscience émotionnelle par opposition à rationnelle du citoyen, il y a vraiment un développement d'un modèle européen autarcique. Autarcique parce qu'on voit une fermeture des frontières pour se protéger de la folie humaine qui sévit à l'extérieur, nous dit la dictatrice. Également parce qu'on voit qu'il y a le développement d'une nouvelle anthropologie, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle anthropologie. Un homme nouveau est né en Europe, un homme ascète, un homme de raison. D'ailleurs, ce modèle, il n'est pas tout à fait dit qu'il ne devienne pas expansionniste par la suite, puisqu'on voit très bien que la dictatrice parle de montrer la voie de la sagesse à l'extérieur. Donc c'est vraiment un nouveau modèle fermé, mais pourquoi pas, pourrait verser dans un certain expansionnisme à l'avenir. Alors, qu'est-ce que ça induit, une telle dictature, sur la vie quotidienne des gens? Évidemment, une coercition et une restriction des libertés au quotidien. La carte verte qui permet d'encadrer, de limiter la consommation comme les déplacements, et également de filer les déplacements de chacun pour les contrôler davantage. Également, d'un point de vue de la démographie, on a une démographie maîtrisée. On pourrait parler d'un néo-malthusianisme écologiste, c'est-à-dire une politique de restriction des naissances, puisqu'on sait que l'impératif, le facteur démographique joue un rôle très fort sur notre impératif écologique. Également, on a vu qu'on insistait pour que les gens entrent dans une délation, pour qu'on pourchasse l'opposant. C'était ce fameux effort d'épuration idéologique et de dénonciation écologique. Il est là pour combattre l'opposant. Donc vraiment une restriction des libertés, une politique de répression. D'un point de vue de l'organisation de la société et de l'économie, comment ça se passe? Il y a une concentration administrative et géographique de l'appareil productif européen, tant sur les services que dans l'industrie. Alors administratif, parce que l'État, petit à petit, s'empare de tout le secteur privé afin de planifier les productions, de définir les quantités produites et les priorités. On est dans un monde où on ne produit pas du tout de superflu. On produit uniquement en fonction des nécessités extrêmes des hommes. Également, concentration géographique afin de réaliser des synergies et d'éviter le gaspillage lors de la production et les pertes d'énergie, etc. C'est une société également où le règne de l'expert se trouve à son apogée, puisque l'expert scientifique, technologique, écologique représente le salut de l'espèce humaine dans ce monde, dans ce modèle européen. Également, l'expert est légitimé par la division extrême des savoirs et du travail, ce qui légitime en fin de compte l'expert. Alors ces experts, ils travaillent sur des nouvelles technologies, on nous le dit, pour de l'éco-efficacité, etc. Mais également, ce sont eux qui déterminent les quotas de consommation et de prélèvement de ressources naturelles sur l'environnement. À quoi est-ce qu'on aboutit au final? Une consommation qui, même si on a vu qu'il y avait des opposants qui se livraient à de sombres orgies consuméristes, nous dit la dictatrice, c'est une consommation qui est encadrée par l'État, c'est une consommation également qui est influencée par les médias, mais également c'est une consommation qui s'est laissée un extrême degré de liberté via un marché des permis à polluer. Sur ce marché, les hommes peuvent acheter des crédits empreintes écologiques qui leur permettent momentanément d'augmenter leur prélèvement possible sur l'environnement en ressources ou en énergie. C'est un peu la caution libérale de ce monde qui permet à ce monde de ne pas éclater, avec la propagande évidemment. Donc au final, on aboutit à une déconsommation et une décroissance d'État, ce qu'on pourrait appeler ainsi. Voilà, donc on vous a présenté ces quatre mondes. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Et on passe maintenant à comment utiliser ces scénarios qu'on vous a présentés. Alors, une petite précision d'abord, c'est que les mondes ont été volontairement extrémisés. Hein, le côté bitnique de la belle vie, le côté tout à fait dictatorial du goulag vert, c'est avant tout pour qu'ils soient disjoints deux à deux et qu'ils soient bien caractérisés. Donc, chaque monde a des caractéristiques propres et ces caractéristiques qui sont en 2050 avérées, on peut dès aujourd'hui les retrouver dans votre quotidien sous forme de signaux faibles. Alors, un signal faible, c'est un événement actuel dans l'environnement aujourd'hui qui pourrait nous prêter à penser que la société tend vers l'un de ces mondes. Et l'intérêt, c'est à partir d'un tableau de bord, de décrypter ces signaux faibles et de les surveiller, de surveiller leur allumage pour savoir où est-ce qu'on va et peut-être réagir pour savoir en fonction de où est-ce qu'on veut aller. Donc, on va vous présenter ici un certain nombre de signaux à observer, un petit tableau de bord pour vous figurer un peu la chose.
Donc, quelques signaux faibles. Imaginez qu'un matin, vous ouvrez votre journal et que vous lisez que selon le baromètre, un baromètre indépendant, nous on a pris le baromètre Ethicity, qui est aujourd'hui reconnu en France, une majorité de consommateurs français est dite responsable. Évidemment, ça veut dire qu'on tend plutôt, vous l'avez compris, vers la belle vie. Donc c'est un signal relativement positif. Quelques années plus tard, vous ouvrez le journal de même et vous apprenez que le budget des collectivités locales dépasse 40% du PIB. Pour vous donner une indication, aujourd'hui en France, le budget des collectivités locales est de 9,8%. Contrairement aux pays scandinaves, où il est beaucoup plus élevé. Par exemple, au Danemark, il est de 31%. Donc c'est un signe aussi qu'on va vers une relocalisation de l'économie et que les individus, enfin la collectivité locale, a de plus en plus d'importance. C'est donc aussi un signe que l'on tend plutôt vers la belle vie. Troisième exemple, le creusement des inégalités. Alors, on a pris ici l'écart interdécile pour le chiffrer. Donc, c'est l'écart entre les 10% les plus faibles, les plus pauvres de la population, et l'écart entre les 10% les plus riches. Si cet écart interdécile dépasse 8%, ça veut dire 8, c'est que les inégalités s'accroissent. Donc, on tend soit vers superfusion, qui est le monde actuel mais extrémisé, soit vers au pied des murs. Vous l'avez bien compris, les inégalités sont criantes. Dernier exemple, la recherche et développement. Si la recherche et développement dépassent 3% du PIB, donc que l'on s'oriente vers un monde plus technique. Aujourd'hui, la moyenne européenne est d'1,9. Et dans les pays du Nord, la recherche est nettement plus élevée puisqu'elle atteint 3,7%. Donc, on voit que ce monde technique peut nous orienter soit vers superfusion, qui est un monde de la technologie par excellence, soit vers la belle vie, où les industriels et tout le monde se penchent sur la question pour mettre en place de nouveaux procédés plus qualitatifs, plus durables. Donc, ce sont trois exemples. Donc, vous avez vu que ces signaux s'allument progressivement au fur et à mesure du temps. On a fait une liste, en fait, d'un certain nombre de signaux. On ne va pas tous les détailler aujourd'hui, parce que ça prendrait trop de temps. Mais en fait, on peut donc utiliser ces signaux faibles pour évaluer quelles sont les tendances qui se développent dans notre société et vers quel monde on tend éventuellement.
Donc, que retenir à la suite de cette présentation ? Tout d'abord, le fait de savoir que le monde de 2050 ne sera pas un de ces quatre mondes. Ça peut paraître évident, mais il faut quand même préciser qu'il aura forcément des traits de chacun, parce que les mondes ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de l'économie d'un monde, un peu du social d'un monde, un peu du technologique de l'autre, et que le monde de demain sera en fait un agrégat de caractéristiques de différents mondes. Par ailleurs, il se peut qu'en fait, on passe par un monde, puis qu'on tende vers un autre et un autre. Les mondes peuvent être ainsi ordonnés de manière chronologique. Par exemple, vous avez pu voir que le monde sous perfusion, dans lequel notre ami va passer un séjour dans l'Atlantide, on peut l'envisager comme un scénario de transition. C'est-à-dire que comme c'est le plus proche de notre monde d'aujourd'hui, on peut passer par là, mais comme il contient encore plus d'excès et de dérives, il peut nous expulser soit droit vers le chaos, soit vers une dictature, soit vers une véritable prise de conscience et un monde beaucoup plus responsable. Donc, quelques questions aussi à se poser. Dans quel monde on a envie d'aller ? Comment est-ce qu'on peut faire pour influencer l'avenir et créer le monde dans lequel on a envie d'aller ? Et surtout, comment réagir à l'allumage d'un signal faible quand on note des petites choses dans les journaux et dans la presse ? Comment les interpréter et que faire une fois qu'on les a lus ? Voilà, donc nous vous remercions de votre attention et nous vous invitons à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Et en guise de conclusion, on voudrait faire référence à un auteur qui nous a plu, Jean-Pierre Dupuis, et qui parle d'un catastrophisme éclairé. L'idée est en fait de se convaincre que la catastrophe est tellement sûre et tellement inéluctable qu'on va finir par la rendre impossible.
Bien, merci à nos trois intervenants, à Nathalie Ruzet, Diane Julien Zélicourt et Yann Desvaux. Je crois que maintenant, on a un bon moment pour poser des questions, pour que vous leur posiez des questions. Alors, j'ai une question là-haut. Allez-y, et puis vous choisirez qui répond.
C'est branché. Paul Arnaud, là. Je vous adresse mes félicitations pour votre remarquable tournage et présentation, mais ceci étant, je ne me suis pas rendu compte, il y a un primat que vous avez qui est absolument ostensible dans votre démonstration, qui est celui du primat de l'économique. C'est bien naturel, vous êtes des élèves économistes. J'ai la déception, moi, de ne pas avoir vu le cadrage de la culture. Le cadrage, Malraux disait, le 21e siècle serait religieux. Qu'est-ce que ça devient, le religieux chez vous, le culturel, le religieux, puis le juridique, je suis juriste. Je vous demande quels sont les scénarios, dans vos scénarios, quelle place peuvent revêtir ces différentes autres approches qui sont très certainement aussi des alternatives et qui doivent intervenir subsidiairement.
Merci. Vous y allez ?
Alors, une première base de réflexion, de réponse, c'est que, de manière habituelle, les scénarios se travaillent avec une multitude de spécialistes, de la culture, de la technologie, de l'économie, de la sociologie, etc., qui chacun apporte un éclairage et une dimension un peu particulière et propre au travail global. Nous, il se trouve qu'on a fait ce travail dans le cadre des études. Évidemment, on est, par notre appartenance à l'école, d'une part socialement assez trié, et également par le biais de notre enseignement, assez induit dans une certaine direction. Donc on peut évidemment faire cette critique à notre travail. Peut-être qu'on aurait pu, si on avait eu plus de temps, puisqu'encore une fois, c'était dans le cadre scolaire, si on avait eu plus de temps, on aurait pu voir davantage de spécialistes et échanger davantage. Ça, c'est l'un des premiers points. Après, sur les dimensions de la culture dans chacun des mondes, on ne peut pas vous répondre directement pour la raison que je viens de vous citer.
Vous voulez apporter un complément ?
C'est quand même, la culture est quand même fondamentale. Enfin, ça dépend des mondes. Vous avez compris qu'au pied des murs, enfin, c'est un monde complètement explosé. Donc la culture a pas, enfin, du côté des pauvres, sera beaucoup moins, enfin, n'existera presque plus. L'essentiel, c'est de survivre dans ce monde-là. En revanche, si vous prenez le monde de la belle vie, c'est un monde où l'échange, tout ce qui est culturel, immatériel, est beaucoup plus important. Donc on échange, il y a des animations, du théâtre, toute cette vie culturelle et les loisirs ont une place beaucoup plus importante. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est une société de connaissances dans la belle vie.
Merci. Une autre question. Il y a un monsieur. Monsieur, prenez le micro, s'il vous plaît.
Merci. Vous avez clairement expliqué dans le préambule pourquoi vous vous êtes positionné à l'horizon 2050. En 2050, vous pourrez voir, vous, quelles sont les hypothèses qui seront avérées. Un certain nombre d'entre nous ne le verront pas. D'où ma question. Si vous choisissez l'horizon, disons 2025, est-ce que vos hypothèses, est-ce que votre exposé serait sensiblement différent ?
Très bonne question. C'est ce qu'on dit quand on ne sait pas trop quoi répondre. Alors, évidemment, le scénario est un travail qui n'est pas probabiliste. Donc, il est toujours difficile de chiffrer à quelle échéance, quel événement et quelle rupture pourrait intervenir. C'est pour ça que si vous dites un peu plus tôt dans le temps 2045, on peut vous dire que c'est à peu près 2050. Si vous dites 2020, c'est tout de suite plus difficile pour nous parce que c'est un autre travail avec d'autres incertitudes. Il est sûr que le monde sous perfusion aurait peut-être une place un peu plus importante dans notre travail si on avait choisi comme horizon 2020, puisqu'il nécessite moins de ruptures. On l'a vu, il y a moins de signaux faibles qui indiquent que ce monde va se réaliser. Ça veut dire qu'il y a moins besoin d'allumage de signaux pour que ce monde se réalise. C'est donc le plus proche de nous-mêmes. Donc je pense que si on avait choisi 2020 comme échéance, je pense que ce monde aurait pris davantage de place dans notre travail. Voilà ce que je peux vous répondre.
Une autre question, madame ? Oui.
Merci. Je crois qu'effectivement, vous avez tout compris et que la présentation était originale, elle était forte et elle essayait de bousculer un petit peu, en allant très loin, les comportements actuels. Quand vous parlez des experts et que vous projetez des experts qui feront tout, là, je crois qu'on y est déjà dans le problème des experts qui doivent en ce moment donner constamment leur avis sur tout ce qui se passe. Là, je crois que ce n'est pas le futur, on y est déjà. Moi, j'ai confiance, effectivement, dans votre génération, parce que c'est celle qui va faire changer les choses. Et ce que je voudrais savoir, c'est si on a la primeur, là, de ce que vous avez présenté, ou si vous avez l'intention de le présenter dans d'autres milieux sociaux, dans des horizons différents, et si vous l'avez déjà fait, quelle a été la réaction des jeunes de milieux différents du vôtre que vous avez pu avoir ? Merci.
Alors, notre travail, on l'a présenté au comité stratégique de notre majeur, c'est-à-dire les personnes un peu influentes dans la spécialisation que nous avons suivie à HEC, parmi lesquelles François Moisan. Donc on leur a présenté, et par la suite, les gens qui étaient intéressés nous ont demandé de le présenter dans la structure à laquelle ils appartenaient. On est allé chez SFR, par exemple, notamment. C'était pas forcément un auditoire qui était différent de celui qu'on avait déjà connu. On n'a pas encore connu de public réellement différent. Aujourd'hui, le grand public, c'est vous, et c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, le fait qu'on le fasse dans d'autres lieux et un peu plus tard, ça va peut-être dépendre de l'avis que vous portez sur notre présentation et des gens qui nous écoutent éventuellement. Nous, on est prêts éventuellement à le mettre en place sur d'autres publics. Ça peut être intéressant. Il est sûr qu'il y a un travail qui serait à refaire sur les scénarios pour les caractériser davantage. Et donc, présenter cette présentation à d'autres publics nécessiterait certainement d'en adapter la forme et le message, peut-être.
On peut-être le faire dans les lycées, dans le cadre de l'Université de Tous les Savoirs au lycée.
Bien, il y a monsieur là, Catherine, alors allez-y là, puis après ce sera monsieur. Non, allez-y. Après, c'est monsieur.
Donc, bonjour et félicitations pour votre travail aussi. Juste pour être un peu plus global, vous avez parlé de notre société, mais pas trop du tiers-monde ou ce qui se passerait dans les pays émergents, par exemple. Le second, mais bon, c'est un détail, c'était très bien ce que vous avez fait. Le second point, c'est dire face aux incertitudes qu'il y a par rapport aux ressources, au climat, démographie, etc. Il y a quand même une incertitude sur les contraintes qui sont nécessaires pour arriver au scénario La Belle Vie, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? C'est mettre une certaine terreur en prenant le risque d'arriver au goulag vert, ou alors ne mettre pas beaucoup de terreur au risque d'être dans l'illusion et d'arriver au scénario au pied du mur.
Alors, pour la première question, ce qu'on peut vous répondre d'abord, c'est que notre sujet était centré sur la France. Et donc, on a pris la France en se disant que c'était quand même un modèle assez représentatif des pays développés. Et du coup, on peut vraiment parler de consommation dans les pays développés. Mais comme notre sujet représentait la consommation et la déconsommation, c'est un sujet que d'emblée, on ne pouvait pas appliquer à l'ensemble de la planète. Pour des questions de logique, c'était pas possible. Et quant à ce qui se passera pour arriver à Plus belle la vie ou à un autre monde, c'est vrai que l'avantage du scénario, c'est de, quand on part dans une échéance qui est assez longue, c'est de pouvoir imaginer différentes manières d'y arriver. Donc en fait, la différence entre Plus belle la vie et le goulag vert, c'est d'un côté une prise de conscience rationnelle des gens qui d'eux-mêmes ont changé leur comportement. Et de l'autre, ils ont donné leur vote et c'est eux qui ont choisi en fait d'être pris en main parce qu'ils étaient pris par l'urgence. Mais après, c'est suivant les valeurs de chacun et je pense qu'on ne peut pas vraiment dire ce qu'il y a de mieux ou porter un jugement là-dessus. C'est pas encore, c'est pas vraiment le but de l'exercice. Après, je sais pas si vous voulez.
Peut-être que quelque part, vu la société actuelle, il y a peut-être besoin d'un petit peu de goulag vert pour arriver à Plus belle la vie. Enfin, qu'on nous Il y a des pays qui sont déjà au point sur tout ce qui est éco-gestes, moins de consommation, moins de gaspillage. La France, ce n'est pas le cas. Donc peut-être que pousser un peu les gens, leur taper sur les doigts pour qu'ils se mettent, qu'ils se responsabilisent et qu'ils gaspillent moins, serait peut-être une bonne chose pour qu'après, ils en prennent conscience et sans aller jusqu'à une dictature, soient responsables, consomment moins et nous orientent vers Plus belle la vie.
Et pour clore la réponse, en 2050, ça sera certainement un mix du goulag vert ou de la belle vie, enfin espérons-le. C'est l'un des peut-être des meilleurs mix. Donc on ne sera pas ou dans le goulag vert ou dans la belle vie.
Bien, monsieur.
Je voulais parler, par exemple, des prévisions pour l'an 2000. Alors, Citroën a quitté Paris en 1963, du temps du général de Gaulle, la DS19. Et puis Renault a quitté l'île Seguin dans les années 90 à peu près. C'est pour dire qu'il y avait quand même deux grands centres de production avec la sous-traitance dans Paris. Et aujourd'hui, eh ben, ça fait 500 000 emplois qui sont perdus dans Paris, mais qui ont été délocalisés en quelque sorte. Donc on avait dit qu'en l'an 2000, il resterait les écoles, les musées, et puis ensuite l'alimentation. Alors, et puis ce qui reste toujours dans Paris aujourd'hui, évidemment, ce sont les transports. Voilà. La consommation de sandwichs l'année dernière en France, elle était de 1,8 milliard de sandwichs. Et maintenant, vous avez sandwichs. Vous voyez ce qu'on avait prévu pour l'an 2000, eh ben, on peut dire que c'est en train de se réaliser. Voilà. Ça, c'est le recul. Par contre, on dirait on appuyait sur les boutons, parce que nous, les boutons, c'était marche arrêt. Donc, il n'y avait pas encore l'Internet et téléphone portable et tous ces trucs-là, tout ça. Voilà.
Merci.
On ne peut pas vous dire combien il y aura de sandwichs qui seront dévorés délicieusement en 2050. Notre travail, encore une fois, c'est ni probabiliste, ni de chiffrer exactement. Mais les prévisions sont faites pour être affirmées, donc, ou pour être confirmées. Je ne sais pas exactement où on en est. Espérons que certaines entreprises reviennent à Paris. Mais...
Très bien. Madame, vous avez le micro.
Votre travail était très intéressant, mais pourquoi avoir écarté la conflagration généralisée ?
Très bonne question.
Peut-être parce que dans ce cas-là, il n'y avait plus de consommation et qu'on n'aurait plus l'occasion de travailler dessus.
Bien, je crois. Et encore une question là-bas, oui. Monsieur, oui.
J'ai beaucoup aimé votre travail. Bien entendu, il est outrancier, mais c'est comme ça que ça se coud un peu. De toute façon, la société de consommation, c'est très bien, mais il faudrait quand même voir comment elle est venue, parce qu'elle n'est pas venue par le désir des consommateurs. Elle est venue par la production qui a été donnée par une certaine technique qui a permis cette production. Bon, ce point-là, écarté, mais sur lequel il faudrait un peu réfléchir, j'aime beaucoup vos signaux faibles. Parce que les signaux faibles, nous les vivons actuellement par des mises en carte, par un système de plus en plus surveillé et qui n'évite évidemment pas le danger. La peur n'a jamais évité le danger. Maintenant, il y a déjà eu hier, dans une conférence qui était très intéressante, un petit problème qui a été soulevé. Cette espèce de bête qui s'appelle l'animal humain, ne tente-t-il pas à sa propre destruction ? Je vous remercie.
Vous voulez répondre ? Non ?
Je trouve que vous avez tout à fait raison.
Bon, alors on passe à la question suivante. Là-bas, il y a quelqu'un, madame.
Bonsoir. Alors, d'abord, je voulais dire qu'en tant qu'étudiante, je suis assez impressionnée par votre travail et que j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et donc, juste une petite remarque. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un monde comme La Belle Vie, qui est celui, je pense, vers lequel tout le monde plutôt aimerait tendre, au final pourrait avoir la dérive d'être un monde replié sur le local, un genre de Candide qui cultive son jardin et qui, finalement, on oublie le monde et le reste. Voilà.
Alors, dans La Belle Vie, c'est vrai que ça ne paraissait pas énormément dans le film, mais c'est tout le contraire d'un repli sur le local grâce à la technologie, puisqu'en fait, c'est une société de réseau dans laquelle on échange énormément. Alors, on a l'impression que c'est local parce qu'il y a une distance géographique peut-être avec les autres, mais en fait, la communication peut se faire de plein de manières différentes, que ce soit par les blogs. Dès que vous avez envie de monter un projet dans La Belle Vie, vous lancez un appel aux volontaires sur Internet. Dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît, vous le dites, vous donnez le conseil aux autres qui vont aller le faire également. C'est vraiment une société de la diffusion de l'information, une société de la connaissance, et où, au contraire, on n'est pas du tout replié, mais on est beaucoup plus ouvert sur les autres, et le lien social passe énormément par ça.
Alors, il y a une dernière question là-haut, monsieur, et puis après, nous allons clore la séance. Monsieur, vous avez la parole.
D'accord. Là, vous êtes étudiant de HEC, vous présentez une vision qui est quand même, dans tous les cas, critique de la société de consommation. J'aurais aimé savoir comment vous envisagez votre position professionnelle future. C'est pas une blague, en fait.
Ça, c'est une vraie question.
J'aimerais travailler sur le marketing de Coco le singe. C'est une boîte. Non, alors, pour rester plus sérieux, on est en train de chercher du travail, tous les trois. Je pense que pour tous les trois, la question du sens au travail et du sens de ce qu'on fait est primordiale. Voilà ce qu'on peut vous dire. Est-ce qu'on doit dire ce qu'on veut personnellement faire ou... Oui. Alors, moi, j'aimerais personnellement travailler dans le secteur des énergies renouvelables, par exemple. la placardisation du directeur du développement durable, par exemple. Alors, je parle en mon nom, peut-être, je ne veux pas parler pour mes... D'accord. Alors, personnellement, je... D'accord. Personnellement, je ne souhaiterais pas travailler dans une grande entreprise, justement pour les raisons que vous avez évoquées, à savoir que l'action est un peu diluée et qu'on peut très vite être repris comme caution un peu alternative de la société. Donc, je préférerais travailler dans des plus petites sociétés, même si je m'interdis rien. L'idéal pour moi, je crois, étant de créer sa propre société en ce qui me concerne.
On va peut-être demander à Nathalie Diane, oui, de...
Alors, moi, personnellement, j'aimerais bien travailler dans des domaines qui ont un fort impact environnemental et social. Je pense à ce qui concerne l'environnement, le bâtiment, le traitement des eaux. Je pense qu'il est possible de faire évoluer les choses et que c'est à notre génération de le faire. Donc, sans être hypocrite et travailler, pourquoi pas rejoindre un grand groupe, mais en étant consciente de mes valeurs et en les faisant respecter, en les faisant partager. Je pense à des entreprises qui se lancent dans du social business, qui font travailler des personnes en difficulté, des travailleurs en insertion. Et c'est possible aujourd'hui de faire évoluer les choses au niveau environnemental, mais aussi au niveau social. Et si on n'essaie pas de faire changer toutes ces grosses entreprises, personne ne le fera. Donc voilà, pas pour mon point de vue.
Allez-y.
Donc, quant à moi, je rejoins tout à fait l'avis de Nathalie sur les grands groupes. Comme vous l'avez entendu au début, je m'intéresse pas mal au logement écologique. Et je pense que justement, le challenge est d'autant plus grand quand on a certaines idées de l'avenir qu'on a envie de voir se réaliser, d'aller dans une structure qui est déjà bien rodée depuis certaines décennies. Le challenge est quand même beaucoup plus stimulant et c'est peut-être là qu'on sera le plus utile, plutôt que d'arriver dans une entreprise qui a déjà énormément de politiques, etc., développement durable. Aller dans une structure qui est difficile à faire bouger, etc., c'est peut-être finalement l'endroit où on aura le plus de répercussions.
Merci. Je crois que vous souhaitiez, en conclusion, dire un mot, puisque c'est un travail collectif, mais pas qu'à trois.
Un petit mot. On a travaillé toute l'année sur ce... Enfin, pas toute l'année, puisqu'on avait une année assez courte. Mais on a travaillé avec... on était sept dans le groupe sur ce travail académique, avec quatre autres personnes qui étaient dans notre spécialisation. Donc, il y a Jean, Mariam, Thomas et... Et Yann. Yann, en fait, c'est mon homonyme, excuse-moi. Et donc, voilà. Jean, Thomas, Yann et Mariam. Et on voudrait les remercier, parce qu'ils ont aussi travaillé.
Je crois qu'il y en a qui sont là, c'est ça.
Et un dernier point également, on voulait remercier Bruno, qui est le producteur-réalisateur des films que vous avez pu voir, qui sont d'excellente qualité d'ailleurs. Et voilà, c'est les productions de La Mandarine, et sans lui, je crois qu'on n'aurait pas pu faire ce travail. Merci beaucoup.
Bien. Eh bien, merci à tous les trois, et bonsoir à tous. Je vous rappelle que demain soir, nous avons... la conférence suivante, qui est sur la conception à la consommation, comment réduire les impacts environnementaux des produits que l'on utilise. Et c'est Christine Cross, qui est chef du département éco-conception et consommation durable de l'ADEME. À demain et bonsoir. Merci.